Et c'est l'heure des arpètes. Chaque mois, on décrypte un nouvel enjeu de société au travers d'un essai, avec l'aide de nos invités. De la vulgarisation, des échanges d'idées, des découvertes et des rencontres, les arpètes, c'est votre brunch curieux du samedi midi pour nourrir nos réflexions, construire une culture commune et comprendre un peu mieux la société dans laquelle nous vivons. Et c'est tout de suite sur Prune.
Bonjour et bienvenue dans les arpètes.
Ce mois-ci, chers arpètes, nous allons parler famille. Il est presque plus facile de présenter notre sujet du jour par la négation, car nous allons partir à la rencontre de modèles familiaux qui sont tout, sauf la famille dite traditionnelle.
Oui, aujourd'hui nous allons partir à la rencontre des personnes qui nous permettent de penser la famille, la parentalité autrement, en dehors des normes en matière de genre et de sexualité.
Pour ce faire, nous nous sommes tournés vers l'association NOSIG, le centre LGBTQIA+, de Nantes, au sein duquel il existe un groupe famille qui a pour vocation de faire se rencontrer les parents ou futurs parents LGBTQIA+. C'est par ce biais que nous avons rencontré deux de nos invités présentes aujourd'hui.
Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Aurélie, tu es maman d'un enfant de 5 ans et demi et tu comptes parmi les membres fondateuristes du groupe famille de NOSIG. Et on a Daphné avec nous aussi.
Bonjour.
Daphné, tu es également maman d'un enfant de 2 ans et membre du groupe famille de NOSIG aussi. Et avec ta compagne Julie Guillot, vous avez écrit et illustré une BD qui raconte votre parcours non sans embûche vers la parentalité. Ça ne retrace pas que votre histoire perso puisque vous y entremêlez l'histoire politique de la procréation médicalement assistée, PMA, avec une abondance de recherches et de documentation.
C'est vrai qu'on aurait pu arpenter ta BD, Daphné, on y avait pensé pour cet épisode, mais on n'avait pas trop le cœur à déchirer une BD en 4 morceaux. Déjà, ça nous fait toujours mal quand c'est un livre, alors une BD. Et surtout, nous voulions dans un premier temps dézoomer un peu pour pouvoir brosser un portrait plus complet des familles queer.
Pour cela, nous avons choisi le livre de Gabrielle Richard, « Faire famille autrement », paru aux éditions Binge Audio en 2022.
L'autrice Gabrielle Richard est une sociologue et chercheuse, spécialiste des questions de genre et de sexualité. Elle est queer et parent de 2 enfants avec sa partenaire non binaire.
Ce livre croise sa propre expérience de parent, les enquêtes qu'elle mène depuis 15 ans sur les normes de genre et de sexualité et les interviews de plusieurs dizaines de parents avec qui elle a échangé pour l'écriture de ce livre.
Comme d'habitude, nous avons déchiré ce beau livre en 4 morceaux pour s'en partager la lecture selon le concept de l'arpentage. On rappelle, l'arpentage c'est une méthode de lecture collective. Chacun chacune lit son morceau de livre et on met tout en commun pour avoir une vue d'ensemble du propos.
C'est parti pour l'arpentage, alors on va découvrir ensemble ce que raconte « Faire famille autrement » de Gabrielle Richard. Alors du coup j'avais la première partie du livre de Gabrielle Richard, donc c'est à moi qu'incombe la lourde responsabilité d'expliquer les termes qui vont jalonner le livre et l'émission. Notamment le terme « queer », elle parle beaucoup de choses dans son introduction, mais j'ai décidé de me concentrer là-dessus parce que déjà, je trouve que sa définition du terme queer est très claire. Je pense qu'on va aussi l'utiliser beaucoup dans l'émission, donc ça servirait à tout le monde. Mais surtout parce que j'ai découvert ce mot sous un autre jour, alors que je pensais déjà connaître la définition du mot queer. Donc, les familles queer, de quoi on parle ? Gabrielle Richard, elle nous donne 2 définitions. Dans une première définition du mot queer, elle explique que ce terme peut être utilisé comme un terme parapluie, comme un synonyme du sigle LGBTQIA+, et qui englobe donc les personnes qui sortent des normes de genre ou de l'orientation sexuelle dominante, qui ne sont donc pas cisgenres ou hétérosexuelles. La deuxième définition de queer qu'elle nous donne et qui est beaucoup plus politique, c'est d'ailleurs celle qu'elle utilise dans son livre et qu'on va probablement utiliser dans l'émission, c'est une définition qui se base davantage sur les mécanismes et notions qui font que les personnes LGBTQIA+, sont considérées hors normes. Ces notions, il y en a 3. La première, la binarité de genre. La binarité de genre, c'est le fait qu'on considère que l'humanité est divisée en 2 catégories, hommes et femmes. Et ces 2 catégories impliquent chacune de nombreuses attentes sur l'apparence physique, les caractères, sensibilité, les aptitudes, enfin tous les clichés qu'on connaît. Donc la binarité de genre. La deuxième notion, c'est la présomption d'hétérosexualité, qui, comme son nom l'indique, est le fait de considérer que tout le monde est hétéro par défaut. Qu'on n'envisage pas spontanément qu'une personne puisse être bisexuelle, homosexuelle, pansexuelle, ou même que cette orientation sexuelle puisse évoluer tout au long de la vie. La troisième notion, c'est notre habitude à systématiquement associer le sexe, le genre, l'orientation sexuelle et l'orientation romantique et d'en faire une sorte de package indissociable. Tu es né avec un pénis, donc tu es un homme, tu coucheras avec des femmes, tu seras amoureux d'une femme et tu deviendras père. Comme si tous ces éléments étaient logiquement liés. Donc le queer invite à sortir de ces trois notions que je viens de citer pour élargir la norme. C'est cette idée-là d'élargir la norme que j'ai particulièrement appréciée dans sa définition parce que, en général, on a plutôt tendance à voir, faire rentrer les gens hors norme dans la norme un peu à coup de chausse-pied, coûte que coûte. Et c'est vraiment cette idée d'élargir la norme que Gabrielle Richard utilise quand elle parle de queerer la norme et de queerer la famille. Pour ajouter une petite subtilité à cette définition, queerer quelque chose, ça n'est pas que en la repensant sous le prisme du genre et des sexualités, mais aussi de repenser les normes à l'aune de toutes les oppressions, racisme, validisme, agisme, de manière donc intersectionnelle, c'est un mot qu'on aime beaucoup dans les arpètes. Voilà, donc j'ai terminé avec mon point lexico. Je vais laisser la parole à Aurélie qui avait la suite du livre, parce que je pense que la suite est beaucoup moins théorique et j'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet.
J'avais la seconde partie du livre et en fait, dans un premier temps, la question abordée, c'est est-ce que la famille, c'est vraiment biologique ? Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, ça a posé des mots sur une expérience personnelle. Mmh. Et en fait, elle explique que le lien biologique, il ne fait pas le parent, que c'est une nécessité pour les couples queer de s'interroger sur la place en fait, de la filiation dans leur projet parental. Il y a beaucoup de choses qui en découlent, comme le fait que le parent social, c'est vu par l'entourage comme un choix par défaut. C'est assez intéressant de ce point de vue-là. Et puis, ça en va jusqu'à à une pratique, alors que un mot que je ne sais pas du tout, mais une pratique d'appariement proposée. En fait, c'est une pratique qui est proposée quand les couples de femmes choisissent un donneur, ils proposent de chercher à coller aux traits caractéristiques du parent, de la mère qui ne va pas porter l'enfant, pour justement qu'il y ait cette apparence de lien biologique. Donc, queerer la famille, c'est s'interroger sur ce lien biologique, le fait d'être parent. C'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, le lien biologique est encouragé. Les parents biologiques sont valorisés, ils ont des privilèges. La filiation, elle est reconnue dès la naissance. On donne un congé parental aux parents qui a porté l'enfant. On attribue le nom de famille et il y a une vraie légitimité symbolique. L'une des autres questions auxquelles les parents queer ont aussi à s'interroger, c'est quelle est la place des autres parents. Des autres adultes qui vont être présents, qui participent en fait au projet parental sans pour autant être les parents. Une question qui en découle, c'est la sécurisation juridique de la filiation. Et donc, la famille, le second point qu'elle aborde dans son livre, la famille n'est pas qu'un foyer entre deux parents, ou deux personnes et un enfant, parce que on a tendance à penser que, dans notre société, on a une cohabitation et une superposition de la parentalité, et de la conjugalité, en fait, qui sont remis en cause par des modèles alternatifs plus queer, en fait.
Ok, c'était à moi pour la troisième partie, une partie qui commence avec deux très joyeux slogans qui font plaisir à lire, du type « un papa, une maman, rien de mieux pour un enfant ». Le chapitre s'appelle en effet « En finir avec la répartition genrée des rôles parentaux » et sans surprise, ses slogans « Anti-mariage pour tous » prônent la complémentarité des sexes basée sur des présomptions de genre. La femme est donc associée à la maternité et aux soins, quand l'homme est bien souvent considéré incapable de s'occuper d'un bébé. Gabrielle Richard, l'autrice, clôt l'introduction de son chapitre par cette phrase « Nous verrons à quel point les rôles de genre exercent une contrainte indue sur bon nombre de parents et comment les parents queer cherchent à s'en émanciper en misant sur les fonctions du corps et en répartissant les tâches sur la base des intérêts, des capacités et des disponibilités des adultes impliqués, plutôt que sur leur genre. » Et nous commençons de suite avec la grossesse, qu'elle invite à voir comme une expérience humaine, l'expérience de la fonctionnalité d'un corps. Elle rappelle déjà à quel point cette expérience est subjective et multiple. Et elle parle aussi, témoignage à la clé, d'expérience de grossesse comme d'un moment potentiellement traumatisant qui peut entraîner entre autres de la dysphorie. Dysphorie, au contraire d'euphorie, exprimée parfois par les personnes dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe qui leur a été assigné à la naissance. Pour des personnes non binaires, gender fluide ou des hommes trans par exemple, la grossesse leur impose une socialisation féminine, ce qu'ils ne souhaitent pas toujours. Et elles ne vont alors pas se reconnaître dans les vêtements et autres accessoires de maternité, ni dans le langage où on va s'adresser assez systématiquement à la personne enceinte comme la maman et à l'accompagnant comme le papa, entre autres. L'expérience queer montre bien que la grossesse est si cimentée au féminin et à la féminité qu'elle en devient indissociable aux yeux d'autrui. Je cite l'autrice. De l'intérieur, dans les corps et leurs perceptions, mais aussi de l'extérieur, à travers les objets et les pratiques qui se rapportent à la grossesse. De ce que je comprends, on essaye à tout prix de faire exister les parentalités queer dans un modèle hétéronormatif. Ça me fait penser par exemple à la fameuse question « qui fait l'homme, qui fait la femme ?» dans un couple homosexuel ou un couple lesbien. Je réalise aussi que la parentalité queer nous fait tous avancer car il montre que d'autres scénarios sont possibles quand un couple hétéro va souvent agir comme s'il n'y avait pas d'autre alternative pour des questions parfois bien plus anodines comme par exemple la contraception. La parentalité queer met sur la table des réflexions liées au partage de tâches et aux soins de l'enfant. C'est le cas de l'allaitement par exemple et l'autrice nous parle de la lactation induite qui est le fait de déclencher la lactation chez une personne n'ayant jamais été enceinte, ce qui est théoriquement possible pour tout le monde, bien que souvent médicalement assisté. Dans pas mal de témoignages cités, on trouve le terme bidouiller, bidouiller avec son corps, bidouiller avec les vêtements, bidouiller avec les papiers, avec l'administratif. C'est pas un terme franchement positif et on voudrait pas que les personnes n'aient à bidouiller quoi que ce soit, mais ça veut aussi dire que ces personnes-là s'approprient la parentalité, qu'elles la plient à leurs désirs et à leurs capacités. J'ai trouvé que c'était assez inhabituel d'envisager la parentalité de cette manière, de manière plus centrée sur les parents et sur leur recherche de confort. D'ailleurs, ma partie se termine sur la difficulté et la beauté d'explorer, d'affirmer son expression de genre sans brusquer l'enfant et en restant une famille stable. Et pour finir, je cite à nouveau l'autrice, parce que après tout, être parent, faire famille, ce ne sont pas des rôles mais des pratiques, et les pratiques, ça s'adapte. Et je pense que c'était à toi Daphné, et que tu avais la fin.
Oui, tout à fait. Moi, j'avais la dernière partie, réinventer la famille, partie dans laquelle Gabrielle Richard aborde trois points de manière un peu pêle-mêle en fait, autour de stratégie parentale, si je peux m'exprimer ainsi. Une première partie dans cette partie sur la question de la famille choisie. Alors peut-être qu'il faut que j'explique ce terme. On entend par famille choisie les personnes en fait qui font le choix de s'apporter soutien, réconfort, soins et amour inconditionnel en dehors des liens génétiques ou légaux. Du coup, c'est un vaste sujet que Gabrielle Richard glisse ici dans son livre. J'aurais aimé aller un petit peu plus loin sur le sujet, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Ensuite, elle a une seconde sous-partie sur la question du langage, comment on se réapproprie le langage, parce que aussi on mesure l'impact des mots, tant pour nous-mêmes, en tant que personne queer, ou pour la société tout entière et la façon dont on a envie que les autres nous perçoivent aussi. D'où l'importance de réfléchir en tout cas aux termes pour désigner les parents, aux termes qu'on utilise dans notre foyer, qu'on utilise à l'extérieur, et ça peut ne pas être les mêmes. Et aussi tout l'entourage, en fait, on peut repenser vraiment ces termes-là, sortir du maman, papa classique. Et la dernière partie, enfin sous-partie en tout cas, sur la question des rituels, nous parle des rituels de baby shower, gender reveal, donc des rituels que certaines personnes organisent lorsqu'elles sont enceintes pour préparer l'arrivée de l'enfant, célébrer la grossesse. Et elle glisse aussi dans cette partie une réflexion sur les parrains marraines, est-ce qu'on choisit d'en avoir ou pas, un ou une ou plusieurs, et puis quel nom on leur donne aussi, voilà, toutes ces questions-là qui sont abordées au travers de témoignages. Moi, à la lecture de cette partie, j'ai eu l'impression que Gabrielle Richard, elle nous décrivait une utopie, la face douce et joyeuse d'une réalité qui me semble plus contrastée et violente, et que j'ai l'impression que c'est un peu édulcoré dans cette partie, en tout cas. Je trouve néanmoins que cet essai a le mérite de donner aux lectrices l'envie de se libérer de certaines normes. Ça nous engage dans un mouvement de déconstruction. Et ça fait du bien. Et aussi, on a besoin de légèreté, je pense, pour s'engager dans ce type de mouvement. Donc ça peut, si ça peut ouvrir des voies et des chemins, c'est très chouette. Moi, je ressors avec quand même une interrogation pour Gabrielle Richard. J'aimerais savoir plus exactement quelles sont les familles dont elle nous parle dans ce livre. Et j'étais un petit peu frustrée ou parfois juste curieuse. J'aurais aimé mieux les connaître. J'aurais aimé savoir où elles vivent. Est-ce qu'elles nous parlent de familles françaises ou de familles canadiennes ? Et parfois, c'était pas clair pour moi, et pourtant ça change tout parce que le contexte légal, il est pas du tout le même et on n'est pas dans la même histoire législative, politique, militante. J'aurais aimé aussi savoir à quelle classe socioculturelle elles appartiennent, ces familles. On n'a pas tout à fait tous les mêmes moyens, et surtout quand il est question de parentalité. Et quand on est queer, c'est encore plus prégnant. Et j'aurais aimé savoir aussi en quelles années elles ont donné naissance à leur enfant. Là encore, pour une question d'histoire politique et législative. Voilà. Et si je veux résumer ma partie.
Ben merci beaucoup. Pour rebondir sur ce que tu disais, il me semble avoir lu dans l'introduction qu'elle dit sciemment ne pas donner ce genre de détails, sauf quand c'est absolument nécessaire à la compréhension d'un contexte. Mais alors, je ne sais plus pourquoi. Ben, pour pas... Ouais, elle voulait pas donner ce genre de détails. Voilà, ouais, simplement.
Je trouve ça parfois dommage. Mais ça peut être dommage, ouais. Parce que, notamment à un moment, elle cite une pratique de certains couples avant les lois mariage pour tous. Elle dit que ça se pratique dans plusieurs pays avant les lois mariage pour tous. Les couples homo s'adoptaient entre adultes pour bénéficier de droits entre personnes. Personnellement, moi, je ne connais pas du tout de... Enfin, jamais entendu ce genre de pratique. Et il faut savoir que dans la majorité des pays, il y a un minimum d'écart d'âge entre adoptant et adopté à respecter. Ah, en oui. France, c'est 15 ans. Donc, c'est voilà, ce genre de... Bah, de phrases qui, sorties de son contexte et sans source et sans explication, voilà, parfois on est un peu dérouté et c'est pas exactement à quoi elle fait référence.
Donc ça a participé à te donner le sentiment d'une utopie, un peu, des fois, de lire des choses qui semblent surréelles par rapport à la condition actuelle en France.
Oui, je pense que l'utopie... Puis, bah après, la partie sur la famille choisie me parlait directement, puisque moi, je suis en rupture familiale avec mes parents, donc je vis la rupture familiale. Et je peux dire, de mon point de vue, de mon expérience, que pour moi, en tout cas, recréer une famille choisie, c'est quelque chose de très compliqué, au vu de, on pourra en reparler, mais de ce qu'est la famille, une institution parmi d'autres en France, dans notre culture française.
Ça va être les sujets qu'on va pouvoir aborder dans la partie discussion, et pour avoir vos points de vue un peu respectifs aussi sur le livre. Mais avant ça, on va faire une petite pause musicale avec un morceau de Mélissa Lavo.
de s'y passer de sang, on va devenir stupide et viser les enfants, les éteindre, en faire de l'encens, puis le lendemain te demander ce que t'en penses. Tes prières sont restées sans réponse, ne demande pas pardon, même Dieu serait contre, sa fille est partie. On va te faire un dessin, ton sort est jeté. Depuis l'heure du décès, l'auto-justice est prônée. Et ça maintenant, à la hauteur, on ne connaît aucun châtiment. Ton âme sous la tempête, la colère d'une mère. Il y a quelques dettes que l'on paie sur terre. Tu vas déguster la glace à la loi du talion. La haine enchaîne dont elle maille. On brûlait ton maillot et tu seras dedans. La vengeance ne résout rien, mais on sera content.
Vous êtes de retour dans les Arpèdes, votre brunch littéraire et militant du samedi midi. On vient juste d'écouter Lilith de Mélissa Laveau. Juste avant, nous avions fait la restitution de l'arpentage du livre « Faire famille autrement » de Gabriel Richard. Et tout de suite, nous allons pouvoir en discuter avec nos invités Daphné et Aurélie.
C'est oui. Quoi les élections régionales ? J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste.
On le rappelle pour nos auditeuristes qui nous rejoignent, nous sommes en compagnie de deux invités, toutes deux membres du groupe parent de Nozig, Daphné et Aurélie. Alors, pour revenir un peu sur ce qu'on disait à la fin de l'arpentage, Daphné, tu parlais du sentiment de lire un peu quelque chose qui s'apparenterait à une utopie de parentalité queer. Est-ce qu'Aurélie, tu as eu le même sentiment et est-ce que vous avez ce sentiment-là parce que ça contraste beaucoup avec ce que vous avez pu vivre ou ce que vous avez pu voir autour de vous, lire, entendre ailleurs ?
Alors déjà, moi je dirais que utopie parce qu'en fait, il y a peu d'ouvrages qui parlent de ce thème déjà. Et puis utopie parce que, moi c'est ma vision, ça fait du bien de voir poser des mots sur quelque chose qu'on a vécu. Et qu'on n'a pas forcément suffisamment de recul pour justement pouvoir poser des mots. Et puis surtout, c'est aussi l'idée du groupe famille, c'est de voir qu'on n'est pas seul. Voilà, ça fait du bien, et pour les enfants, et pour les parents, de voir qu'on est aussi plusieurs, même si on a des parcours de vie de parents différents, on s'est posé plus ou moins les mêmes questions. Parce que quand on est parent queer, on se pose beaucoup, beaucoup de questions. Voilà. Donc, c'est en ça que je parle, que je partage, alors peut-être pas au même niveau que Daphné, mais effectivement, c'est pour ça que je partage ce côté utopiste. Parce qu'aujourd'hui, ça reste... les parents queer, ça reste une minorité. Ça avance tout doucement, mais du coup, il faut se frayer un chemin dans l'administratif, à l'école. On est obligé de faire de la pédagogie sur notre famille, et ça, c'est pas forcément facile au quotidien. Voilà.
C'est dans ce contexte-là que tu as rejoint Nozig ?
Alors, tout à fait. Nous, on est arrivés l'année dernière sur Nantes. On n'a jamais été dans l'associatif. Et en fait, ma fille a 5 ans et demi. Elle commence à se poser des questions. Des questions qu'est-ce qu'un père ? On lui a expliqué, mais en fait, c'est même venu plus largement à l'école où on nous a demandé si on parlait du concept de papa. Et en fait, j'ai été obligée d'expliquer que oui, on parlait du concept de papa. Parce que c'est pas parce qu'il n'y en a pas qu'on n'explique pas. Parce que tous les autres en ont. Et que même nous, c'est maman, on en a un, papa. Mais on explique depuis que Sacha est né son histoire. Donc oui, c'est aussi... C'est dans cette démarche-là que j'ai rejoint l'association Nozig, qui n'avait pas en fait de branche famille. Au vu des conviviales, on se retrouve à plusieurs dizaines de personnes et en fait, ça fait du bien d'être dans un lieu safe et de parler notre parentalité qui n'est pas la même que la majorité des autres. Voilà.
Du coup, aujourd'hui, toutes les deux, vous inscrivez votre parentalité dans une forme de militantisme par Nozig et puis toi par l'écriture d'une BD avec ta compagne. Est-ce que pour vous, c'est un militantisme choisi, une démarche nécessaire pour vous, pour les autres? Comment est-ce que vous voyez ces démarches-là?
Oui, c'est choisi. Après, oui, c'est nécessaire. On a envie de faire bouger les choses et on aimerait les faire encore plus bouger. Je pense qu'on mettra pas tous et toutes le curseur au même endroit, mais c'est vrai que dans la réflexion d'avoir un enfant avec Julie, c'était clairement dans une perspective féministe et dans une perspective aussi de remise en question de la domination adulte. Et ça s'inscrit aussi nous fortement dans notre parentalité. Peut-être c'est un axe d'ailleurs que moi j'aurais aimé trouver dans Faire famille autrement, parce que c'est peut-être l'un des choix, j'ai l'impression aujourd'hui, le plus radical de ceux qu'on a fait, au-delà d'être deux femmes et de vouloir un enfant. Sortir des normes, c'est peut-être aussi remettre en question cette culture de la domination, de la punition, pour essayer de construire un monde un peu meilleur demain, quoi, avec nos enfants qui arrivent et qui le bâtiront. Donc voilà, ce militantisme, il est assez large finalement et il va au-delà de simplement l'accès à la procréation pour tous et toutes.
Donc il faut continuer de faire famille, c'est pas une fois l'enfant qu'on a désiré, une fois qu'il est accueilli, qu'il est arrivé, il faut continuer à faire famille, ça...
Oui, complètement. C'est presque là où tout commence et où ça devient encore plus d'enjeux, quoi.
Ouais, non, mais puis je pense que, enfin, comme tu l'as dit, c'est un militantisme choisi, nécessaire, mais qui est inséparable, en fait, de notre condition. Enfin,
j'ai l'impression j'ai l'impression que vous n'avez pas le choix qu'on n'a pas le choix quand on est dans ce type de parentalité se battre tout le temps pour éduquer, mais c'est peut-être juste une impression.
Non, c'est pas une impression. Je pense que c'est en ça que c'est nécessaire. C'est parce que, on veut vraiment accompagner en fait notre enfant. Comme tu l'as dit, Daphné, c'est pas tout juste d'être parent. Enfin, voilà. Après, c'est tout le reste. Et c'est là que tout commence, que ça soit sur l'éducation. Comment faire famille autrement, c'est aussi quelle est comme tu l'as dit, les relations entre les parents et les enfants. Mais c'est aussi montrer qu'il y a des familles différentes. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas... c'est visible que Sacha vient d'une famille homoparentale, différente. On ne peut pas nier. Ça serait un enfant adopté dans une famille hétérosexuelle. On ne le saurait pas, en fait. Là, en fait, c'est visible. Et si... moi, en tout cas, c'est vraiment cette démarche. Si on veut que ça se passe bien pour Sacha, il ne faut qu'à aucun moment elle ressente que nous, on est une once de honte. Qu'on s'excuse de quoi que ce soit. Et en fait, Sacha m'a rendue beaucoup plus forte parce qu'en fait, pour Sacha, je suis capable de choses que je n'étais pas capable quand j'étais seule, en fait. Parce que pour elle n'a pas décidé de venir au monde. Nous avons fait ce choix dans une configuration qui n'est pas la norme aujourd'hui. Et en fait, elle en souffrira ou pas, mais en tout cas, on veut lui donner un maximum de clés. Et ça fait le fait de Moi, je trouve que c'est même pas du militantisme. Enfin, c'est ce mot-là, mais pour moi, c'est être parent, en fait.
Ouais, d'accord.
Voilà, enfin, juste être parent.
C'est très fort ce que tu dis, que ton enfant te rend plus fort de t'affirmer dans ton identité.
Ah oui, mais c'est elle qui me donne cette force. Je ne l'avais pas avant. Mais c'est la responsabilité d'être parent qui fait que c'est nécessaire. Ouais.
C'est beau.
Il y avait un sujet qu'on avait commencé à aborder pendant la restitution de l'arpentage, qui était celui de la filiation génétique et de la famille choisie. Et moi, c'est des sujets qui m'ont aussi marqué à ma lecture, parce que justement, je me disais que la question de la génétique, on la remet pas forcément en question, surtout quand on est hétérosexuel. Et du coup, en fait, ça m'a... Je pense que c'était la première fois que j'abordais ce sujet-là avec un livre. Et toi, ça avait l'air de te parler aussi, Daphné, de la question de la famille choisie. Et du coup, je voulais savoir, en savoir un petit peu plus sur ce qui t'avait fait réagir à cette lecture.
Oui, pour le vivre, en fait, je trouve ça très intéressant et très bien que ça soit présent dans ce livre. Moi, ce qui m'a manqué, c'est une analyse un peu plus large et le fait de ne pas parler du coût que ça représente pour les personnes concernées. J'ai l'impression, en plus, elle s'appuie d'ailleurs elle-même sur une filmographie, des séries. On voit, et c'est très associé au milieu queer, de se dire qu'on forme une famille, et qu'on voilà, on va créer nos familles, des familles choisies, pour remettre en question les familles biologiques ou légales qu'on a et qui sont... trop souvent défaillantes, pour ne pas dire maltraitantes et violentes. Et ce que je trouve dommage, c'est, de la part de Gabriel Jachat, de ne pas parler du coût que ces ruptures avec nos familles biologiques, légales, ont pour les personnes concernées. Parce que, oui, c'est très chouette quand c'est possible, et bon, moi, je trouve que c'est quand même relativement rare, de pouvoir recréer une famille choisie, de se donner une nouvelle communauté de soutien, de réconfort, d'amour. Mais au quotidien, ça représente un sacré coût. Et en fait, quand bien même on voudrait s'affranchir de ces liens biologiques de sa famille légale, c'est quasiment impossible en France, au vu de notre contexte législatif. C'est très compliqué. Alors, je pense qu'en plus, quand on a des enfants, on s'en rend très, très vite compte, parce que du coup, on n'a pas de mode de garde facile pour nos enfants. On n'a pas les grands-parents qui peuvent prendre le relais quand il y a besoin. Pour trouver un logement aussi, ça devient beaucoup plus compliqué, parce que, pareil, donc on n'a pas notre cercle familial pour être un garant, des garants faciles à accéder au logement. Je ne parle pas de l'apport nécessaire au prêt pour l'achat d'un bien. Et je ne parle pas non plus du coût psycho-affectif ou sociétal même d'une telle rupture, parce que juste annoncer que vous êtes en rupture avec votre famille, ça jette plutôt un froid dans l'assemblée. Et qu'en plus vous dites que votre enfant n'a pas de grands-parents, alors là, c'est un peu le monde qui s'écroule en face de vous. Donc on sent que c'est un coût. Et en plus, oui, souvent, on est... Je pense que assez souvent, il y a dans les personnes à qui on peut rendre témoin de cette situation, une part de peut-être un. Enfin, moi, j'ai l'impression de ressentir parfois un peu de jugement, comme si c'était mon choix de plus être en contact avec ma famille d'origine. Je pense pas que dans une situation, moi, j'ai l'impression d'avoir. C'est un choix, mais un choix de survie, de protection. Et évidemment, si j'avais pu faire d'autres choix, j'aurais fait d'autres choix. Et je préférais largement avoir une famille aimante, soutenante, etc. Donc oui, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Et je trouve que ça, on en parle peu. Mais oui, faites le test autour de vous, de demander qui à Noël va fêter Noël en dehors de sa famille d'origine. Il y en a très, très peu. Et quand bien même les gens se plaignent des dysfonctionnements de leur famille, ils y vont. Ouais. Dans la majorité des cas.
Mmh. Oui, parce qu'il y a cette obligation un peu de... C'est la famille biologique, donc on est obligé de les aimer, de continuer de les voir. Mais c'est quand même assez mal connaître le contexte des personnes queer, de se dire, si t'as pas de grands-parents pour garder ton enfant, c'est un peu de ta faute, t'avais qu'à pas couper les ponts, en fait, vu la quantité de violence qu'on peut vivre en tant que jeune queer dans des familles qui acceptent pas forcément. Enfin, je sais pas si c'est ton cas, si c'est pour ça qu'il y a eu rupture familiale, mais...
Ça rajoute à la balance. Ouais. Mais bon, de toute façon, ça arrive dans plein d'autres. Mmh. Enfin, oui, dans les personnes non queer en rupture familiale aussi. C'est... Enfin, voilà, il y en a quand même.
Bah, c'est pour ça, quand tu parles de famille dysfonctionnelle, je trouve que c'est très intéressant aussi qu'elle le dit au début de son livre, que ce livre il est aussi à destination des personnes hétérosexuelles, pour que les personnes hétéros aussi repensent la famille autrement. Parce que justement, la famille est bien souvent dysfonctionnelle. Même surtout dans le contexte traditionnel, en fait.
Et d'ailleurs, si je peux rajouter quelque chose, dans ma partie, effectivement, elle en parle à plusieurs reprises où en fait, l'entourage, donc ça peut être familial ou amical, n'aide pas à construire, par exemple, un parcours de parentalité, dans le sens où y a un jugement sur la capacité à imaginer les personnes queer en tant que parents, en fait. On remet en question tout un schéma, enfin le patriarcat, enfin c'est enfin je pense que pour des générations c'est tellement incompréhensible.
Tout à fait.
Voilà, donc souvent, on en arrive à des ruptures, effectivement, parce qu'on est accroché à cette filiation. Et comme tu le dis, la filiation... Alors moi, effectivement, j'ai aussi un nombre incalculable de copains qui vont à Noël dans leur famille et qui m'appellent en disant « c'est encore pire que l'année dernière ». Mais ils y vont. Et ben voilà, à un moment, tu te choisis toi
carrément.
Ce qu'attendent les autres de toi. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un choix... qui n'en est pas un, qui est difficile à vivre.
Et pour juste une petite information que j'ai lue dans le livre, que moi je ne savais pas du tout, je suis déçue de ne pas avoir noté la date plus clairement, mais ça date d'il y a très peu longtemps qu'il n'y ait plus une obligation d'avoir une vasectomie quand on,
ah oui. 2016.
Quand on opère un... Oui, ça, c'est, oui. J'avais noté 2017, je crois, mais ouais, ça doit être ça. Quand on opère un changement de pour les hommes transgenres, en fait, on attendait d'eux, on leur imposait d'être stériles. Tellement c'est inimaginable de d'envisager la parentalité dans la transparentalité, quoi.
Bah, c'est vrai qu'on pense avoir fait du chemin avec les avancées de la loi bioéthique c'était en 2021. Donc l'ouverture à la PMA pour toutes, mais en fait c'est pas vraiment pour toutes. Il y a encore les personnes transgenres qui sont un peu les grandes oubliées et les grands oubliés de ces histoires-là, qui sont toujours pas prises en compte et qui sont un peu devenues un peu l'épouvantail LGBT en ce moment, j'ai l'impression, avec toutes les histoires de lobby queer. Et d'ailleurs j'aurais bien aimé, je pense que je vais lire la suite du livre, parce que c'était une question qui m'intéressait beaucoup, la question des parentalités trans aussi. Donc je ne sais pas si ça apparaît dans d'autres passages.
Non, ce n'est pas mentionné. Non. Par contre, pour information, depuis l'année dernière, il y a un décret qui est sorti et qui autorise les femmes trans à utiliser leurs gamètes si elles ont procédé à un don de sperme avant leur changement. Donc,
bon, ça va.
Voilà. En gros, il reste... un combat à mener essentiellement pour les hommes trans. Mmh. Aujourd'hui, sont vraiment ceux les plus exclus de la PMA. Après, il y a d'autres combats à mener sur les personnes racisées, grosses, etc. Mmh. C'est toujours compliqué en accès à la PMA.
Mais
ça avance petit à petit quand même.
Parce que je rebondis sur ce que tu disais. Tu disais que la PMA pour toutes, mais en fait, dans les hôpitaux, il y a des comités d'éthique qui priorise. Et en fait, les femmes lesbiennes, ou même, on parle de faire famille, mais là, on ne l'a pas évoqué, mais le fait d'être maman solo, généralement, et maman solo, là, je crois qu'elle leur dit, mais ce n'est pas le fait d'être séparée du conjoint ou du géniteur de l'enfant, mais c'est vraiment d'avoir ce projet seul. Oui. C'est quand même très, très mal vu aussi dans notre société. Donc effectivement, en fonction des hôpitaux, des localités plus ou moins ouvertes ou pas, on va avoir plus facilement accès à la PMA ou non. Donc la loi reste la loi, mais après, c'est localement que ça se fait mieux ou pas.
Oui, comme d'habitude, entre théorie et pratique.
Exactement.
Ouais, Judith Duportail, on parle très bien de la question des mères seules, parce que du coup, elle a décidé de faire, de s'engager dans un projet de parentalité seule. Et donc, elle raconte son histoire et elle le dit très bien, en fait, que au final, la PMA pour les mères seules a été pensée pour les femmes de 40 ans qui s'étaient... Enfin, le cliché, en fait, de la femme de 40 ans qui s'est lancée à fond dans sa carrière et qui arrive vers l'horloge biologique et qui se décide à la dernière minute de faire un enfant. Mais en fait, ce genre de projet-là est très peu accepté pour, par exemple, une jeune femme de 25 ans qui a très bien pensé son projet mais qui a envie de ça maintenant. On va lui dire, mais... ça a été pensé pour une...
Enfin, c'est vraiment ce que tu viens de dire. Ça, c'est un choix par défaut d'être maman solo. Parce qu'elle n'a pas trouvé l'amour, le prince charmant qui est venu. Du coup, oui, on reste...
Oui, et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a aussi eu des retours sur les dirigeants lors d'entretiens psychologiques qui sont obligatoires en France pour accéder à un don de gamètes. Et lors de ces entretiens psychologiques, les femmes seules, notamment, ont rapporté avoir eu des questions très intrusives ou déplacées, notamment sur leurs revenus financiers, pour montrer qu'elles seraient en capacité d'élever seules un enfant, ainsi que sur leur environnement familial et pour s'assurer qu'elles auraient du soutien autour d'elles, ce qu'on demande à personne d'autre.
Ça, c'est pour avoir accès à la PMA, il faut
le don de gamètes. Le don de gamètes, donc entretien psychologique obligatoire en France.
Ah oui. est-ce qu'il y avait un autre sujet sur lequel vous aviez envie de rebondir, que vous étiez mis une petite note
Tout à l'heure, tu parlais de vocabulaire. Moi, j'ai juste noté l'importance du vocabulaire. Je l'ai noté dans ma tête, mais bien avant de te connaître. Mais, parce que effectivement, les gens confondent tout. J'entends, est-ce que ta fille a un papa? Non, elle n'a pas de papa, elle a deux mamans, on vient de te l'expliquer. Géniteur, donneur. Après, c'est vraiment une sensibilité. Mais tout ça pour dire que les mots ont vraiment une signification vraiment très précise. Et dans notre cas, c'est très important. Ma fille n'a pas de papa. Ma fille n'a pas de géniteur. Nous, on décide de l'appeler donneur parce que c'est un don, en fait. C'est vraiment, c'est vraiment un cadeau. C'est un cadeau. Donc ça oblige à revoir aussi les modèles familiaux différemment. Mais ça pose de problèmes qu'aux adultes. Moi, ma fille, elle a 5 ans et demi. Et en fait, c'est ses copines qui disent « Elle est où ta maman, Lou ? Elle est où ta maman, K ?»« Toi, t'as deux mamans, Sacha. » Et en fait, les enfants, on leur explique avec des mots... de leur âge, mais et tout va bien en fait. Tout va bien.
C'est vrai que dans mon livre, il y a pas mal de témoignages d'enfants où ça a été une des décisions communes après discussion sur comment ils vont appeler le premier papa, le deuxième papa, enfin premier ou deuxième, c'est peut-être pas très bien choisi du coup, mais daddy, dadou, papou. Et au final, c'est un exercice auquel les enfants se prêtent assez volontairement, j'ai l'impression.
Oui, c'est vraiment intéressant cette question du langage. Il y a plein de choses qui passent du l'ordre du conscient et de l'inconscient dans les termes qu'on choisit. Nous, c'est vraiment une réflexion qu'on avait eue
et qui a évolué aussi au fur et à mesure du parcours. Et ça, je trouve ça très intéressant dans le livre de Gabrielle Richard. Elle dit que ça peut continuer d'évoluer toute la vie, en fait, avec la famille qui évolue, se reconfigure, les enfants qui grandissent. Enfin, voilà, peut-être qu'ils auront envie à d'autres moments, d'autres termes, et que nous aussi, on sera plus ou moins à l'aise à certains moments de notre vie avec certains termes ou pas. Et je sais que dans notre cas, avec Julie, nous, on a eu un parcours où on a fait plusieurs tentatives d'insémination artificielle qui n'ont pas abouti. Et on a finalement obtenu notre enfant par une technique qui s'appelle fécondation in vitro ROPA, donc pour réception des ovocytes de la partenaire. Donc, moi, je n'ai pas apporté notre enfant, mais j'ai apporté le matériel génétique, enfin, la moitié. Un donneur a apporté notre moitié et ma compagne, Julie, a apporté la grossesse. Mais en tout cas, avant d'être dans cette configuration-là, avec chacune une implication très claire dans la conception de notre enfant, on était dans une schéma d'insémination et on s'était dit justement pour contrebalancer bien le lien fort et biologique et potentiellement biologique et légal que Julie aurait eu à la naissance de l'enfant né de cette façon-là, et bien que elle l'aurait choisi de pas se faire appeler maman pour que moi je me fasse appeler maman. Pour contrebalancer ça, puisque dans l'imaginaire de tout le monde, la maman, c'est la personne qui a porté l'enfant et qui a un lien biologique, génétique avec son enfant. Après, on a un peu revu nos plans. Aujourd'hui, on se fait toutes les deux appeler maman avec nos prénoms derrière. Parce que dans la conception, dans la façon dont on a obtenu notre enfant, c'est un peu plus égalitaire aussi. Donc ça nous va bien comme ça. Mais il y a une vraie réflexion à avoir autour des termes. Et on connaît d'autres couples qui ont fait le choix de ne pas du tout utiliser les termes maman et de choisir toutes les deux un autre terme. Donc, je pense que c'est chaque couple a son histoire et a sa réflexion autour de ça. Et
bidouille avec les mots.
Exactement. Exactement, j'allais dire bidouille. Et en fait, le bidouille, en fait, il y a un côté péjoratif parce qu'en fait, ça fait ébauche, ça fait rafistolage, ça fait bricolage. Mais il y a aussi un côté sur mesure. En fait.
Mais exactement.
Et je trouve ça même réducteur parce qu'au final, c'est pas juste bidouiller, c'est inventer des nouvelles réalités, des nouveaux réels et des nouveaux mots. Et c'est hyper important et ça va servir à tout le monde, pas que aux familles LGBTQIA+.
Et c'est le système qui nous impose de bidouiller. Quand tu remplis un document administratif pour ma fille et qu'en fait, il y a père, mère, et là, tu te dis, OK, ouais, on bidouille. Et on donne un coup de crayon. Et en fait, non, il n'y a pas parents, en fait.
C'est père, mère, quoi. C'est la réflexion que je me faisais quand vous parliez du langage tout à l'heure. Je me demandais à quel moment on va vraiment prendre ça pour de la LGBTophobie ouvertement de la part des institutions, de continuer de faire des formulaires où c'est homme-femme ou papa-maman, et de pas proposer de nouveaux termes qui, en fait, rendent réels les gens, enfin, des gens qui sont déjà réels, mais qui ont des vrais vécus, mais qui n'existent pas aux yeux des institutions et de l'État.
Ça rentre tranquillement, les écoles proposent de plus en plus la fête des parents ou des gens qu'on aime. Parce qu'en fait, on ne se confonde pas seulement des familles homoparentales, c'est aussi des familles monoparentales. Parfois, j'ai l'impression quand même qu'on oublie la réalité du monde, juste du monde. Et qu'on dit non, alors il faudrait vraiment que ça soit comme ça, comme ça. Et en fait, regardons, on existe. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de militantisme. En fait, le fait d'exister, c'est du militantisme. En fait.
Merci beaucoup pour cet échange. Du coup, avant de passer à la partie librairie et prendre plein de notes sur quoi lire, quoi voir, on vous propose une petite pause musicale avec le titre « Taren » de Angèle.
Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse le temps, il peut c'est sûr, pour oublier tous ces préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais, même si t'es une fille. Si seulement elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir.
Vous êtes de retour sur l'émission Les Arpettes, votre brunch littéraire et militant du samedi midi. On vient d'écouter la chanson « Ta reine » de l'artiste belge Angèle. On va pouvoir passer avec nos deux invités de l'association Nozig, centre LGBTQIA+, de Nantes, à la partie librairie, où nos invités vont pouvoir nous parler de leurs références littéraires, audiovisuelles, en rapport avec le thème de la famille, tout sauf traditionnelle.
À la discothèque.
Et les discothèques.
C'est bébé.
Daphné, on avait envie que tu nous parles un peu de ta BD que tu as réalisée avec ta compagne, il me semble.
Oui, c'est un roman graphique qui est sorti l'année dernière qui s'appelle S'il suffisait qu'on s'aime et c'est aux éditions Stenkiss. C'est un travail d'écriture qu'on a mené pendant 4 ans. On l'a écrit tout en faisant nous-mêmes notre parcours de PMA, autant dire que voilà, on a mené deux gros projets de front chez nous. Et c'est un livre dans lequel donc, on revient sur notre vécu intime, notre cheminement vers la parentalité à nous deux et notre envie de faire famille et ce qu'on a mis... Enfin, les détails de notre parcours pour y arriver. Et on l'a un petit peu décalé dans le temps, puisqu'on l'a replacé entre 2013 et 2018, on va dans l'épilogue jusqu'à 2021, pour se situer entre la loi mariage pour tous, votée en 2013, qui était une loi majeure pour les personnes homo, pour la reconnaissance de leur famille, via l'adoption. Et la loi, les lois bioéthiques de 2021 qui ont ouvert la PMA à toutes les femmes, voilà, les personnes, les hommes trans en étant toujours exclus. Et on revient au travers de 6 chapitres sur les des différents volets, les différents arguments qui s'opposaient à l'ouverture de la PMA à toutes. On essaye de démêler un peu cette grosse pelote de laine et de tirer les fils, et ça nous a emmené sur l'histoire du féminisme, ça nous emmène sur l'histoire des droits des personnes LGBT, sur le droit des femmes, évidemment, on fait un lien très très fort avec le combat pour l'IVG. Voilà, ce que je peux en dire. Je vous invite à aller le lire.
Mais oui, carrément, ça donne très envie.
Bien, merci.
C'est un roman graphique que vous avez fait en même temps que le combat que vous avez mené pour vous être parent. Et c'était comme un appui, une béquille de faire ça en même temps. Ça, c'était un échappatoire.
Je pense que d'un certain moment, oui. Et puis déjà, avant même d'entendre, par contre, nous, ça nous a permis de répondre à plein de questions parce qu'on avait énormément de questions sur la PMA, la parentalité, et que c'était un prétexte pour trouver toutes nos réponses et qu'on en a fait un livre. Et en même temps, parfois, c'était quand même un petit peu compliqué d'avoir ces deux projets de front quand on réécoute pendant 2 heures des interviews de personnes réactionnaires sur le sujet qu'en même temps, on enchaîne les échecs de PMA. C'est un peu compliqué. Donc, les deux à la fois, quoi. On est content que les deux projets aient abouti. On n'était pas sûrs à un moment.
C'est clair.
Ça fait deux beaux bébés, quoi.
C'est clair. Donc, c'est s'il suffisait qu'on s'aime, c'est ça ?
Tout à fait.
Super, merci.
Alors, moi, j'avais un album jeunesse, dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'est pas sur les familles LGBT, mais du coup sur plutôt la famille monoparentale, qui ça fait aussi partie du sujet de faire famille autrement. Le livre s'appelle « Ma maman est bizarre » et c'est un album de Camille Victorine. Et du coup, c'est le récit, c'est une petite fille qui parle de sa famille monoparentale avec sa maman féministe, tatouée, bref, une maman pas comme les autres. Voilà pour la section jeunesse.
Tu avais un autre album jeunesse à nous présenter, je crois.
Oui, j'avais très envie de vous parler d'un album jeunesse qui s'appelle « De quoi sont faits les bébés » de Fiona Smith et Corey Silverberg, qui, il me semble, n'est pas édité en France, mais édité dans des éditions canadiennes. Et sinon, il y a une version anglaise, à la base c'est un livre anglais, et une version espagnole, il me semble. C'est vraiment pour moi le livre le plus inclusif qu'on fait sur l'explication de comment on fait les bébés pour les enfants. C'est non genré et ça inclut tous les moyens d'obtenir un enfant.
Ah oui, voilà. Donc aussi un outil du coup d'éducation.
Oui, tout à fait, parce qu'à la fin du livre, il y a carrément un volet pour les parents pour les aider dans les échanges avec leurs enfants. C'est vraiment un livre qui se pense être un support à la discussion avec les enfants.
C'est top.
Aurélie, est-ce que tu avais quelque chose à nous proposer ?
Rien.
C'est ok.
Pas de soucis. Eh ben, merci à toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation et de vous être prêtées à l'exercice de l'arpentage.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Donc, toutes les références qu'on a données durant l'émission seront disponibles sur la page d'émission sur prune.net, les musiques également et le podcast. Juste après la diffusion.
Merci à Léo, à la technique, comme d'habitude.
Et donc on se retrouve dans un mois. Voilà. Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.